Le texte d'aujourd'hui, c'est dans Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22, que j'aimerais vous lire pour introduire ce temps de prédication. Je lis. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle qui était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. » Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai point exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Voilà jusqu'ici notre lecture. Alors à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir une série de prédications. Une série de prédications sur la foi de Jacob. Qui va durer sur 6 semaines. Donc chaque dimanche, vous entendrez donc une prédication sur la foi de Jacob. Que à travers cette série de prédications, que notre foi puisse vraiment grandir pour bien ouvrir cette année 2021. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Jacob qui rencontre Dieu pendant sa fuite. Quand nous perdons tout ce que nous avons, c'est à ce moment-là que nous pouvons gagner Dieu. Au moment où au chapitre 28, Jacob avait tout perdu. Et c'est comme ça qu'il a pu rencontrer Dieu personnellement. Pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui est proche de lui. Et par la suite, c'est vrai que sa vie était une vie d'errance. Après la fuite de chez ses parents, il n'était pas... Il a rencontré plusieurs épreuves. Du coup, il a vécu une vie de difficulté, une vie d'errance. Une vie d'épreuves, je dirais. Alors, la raison de toutes ces épreuves, on pourrait réfléchir. Pourquoi Jacob avait rencontré autant d'épreuves? Tout simplement parce que c'est vrai que la vie même est sous l'emprise du diable, et depuis la chute de l'homme, et c'est vrai que la vie est difficile, et sans raison parfois, on peut rencontrer des épreuves. C'est ce qui s'est passé pour Job, lui qui était un homme apprécié de Dieu, un homme vraiment parfaitement saint, il était sans péché, d'après le texte de Job. Mais malgré tout, il a connu aussi des épreuves. On peut rencontrer des épreuves sans raison. Mais ici, j'ai l'impression quand même que Jacob a connu aussi des difficultés à cause de ses péchés. surtout ses péchés intentionnels. Et je me dis que c'est lui qui a choisi cette péché parce qu'il a mérité, en fait, il y avait donc une rétribution que, d'après ce qu'il avait commis comme péché. Et alors, quels ont été ses péchés? Dans le texte précédent, dans le chapitre 26-28, nous voyons un peu ce qu'il a commis comme péché. Vous savez que Jacob était jumeau avec son frère Ésaü. On l'appelait même le talonneur, c'est ça? Ouais. Puisque quand Ésaü est sorti, il a pris son talon, hein, pour pour sortir aussi du ventre de sa maman. Donc, il avait toujours, depuis déjà toujours, il était un homme il n'était pas très net. Comment expliquer cela? Donc, un jour, il a osé profiter de la fatigue extrême de son frère Ésaü. Vous savez que, depuis toujours, comme ils étaient des jumeaux, il n'appréciait pas que son frère soit l'aîné de la famille. Hein, il est né juste, il était en retard de, je sais pas, une seconde par rapport à son grand frère. Donc, il n'appréciait pas que son frère Ésaü reçoive toutes les bénédictions de Dieu, tous les privilèges d'être l'aîné. Et donc, un jour, il profite de la fatigue extrême de son frère Ésaü, Ésaü qui était le fils à papa, hein, puisque Isaac l'aimait beaucoup. C'était un homme, un chasseur, contrairement à Jacob qui était tout le temps à la maison. Peut-être un poète, j'en sais rien. Et en plus, il était super fils à maman Jacob, je parle. Hein, alors que l'autre fils, Ésaü, était un fils à papa. Puisque Isaac l'appréciait pour les gibiers qu'il apportait pour la famille. Un jour, donc, il revenait des champs après la chasse et il était vraiment dans l'extrême fatigue. Et Jacob lui propose de manger son potage de lentilles qu'il avait préparé. Contre le droit d'aînesse d'Ésaü. Et c'est comme ça que Ésaü a vendu le droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Etc. Alors, vous vous dites, vous pourriez me dire, mais c'est quoi le péché? Il y a eu un échange. Oui, mais un échange, mais vous savez aussi que il a ravi carrément son droit d'aînesse. Je dirais, il a trompé son frère, car il a utilisé la faiblesse charnelle de son frère pour dérober le droit d'aînesse. Tout était calculé par Jacob. Voilà donc le premier événement. Deuxième chose, dans le deuxième cas, Isaac, le père, son père, devenu vieux, demande à son premier fils Ésaü de lui chasser du gibier pour lui donner sa bénédiction avant sa mort. Mais Jacob, pendant l'absence de son frère Ésaü, Jacob a usurpé l'identité de son frère en jouant la comédie face à son père qui était devenu presque aveugle pour recevoir la bénédiction qui était adressée pour l'aîné. Tout cela avec la complicité de sa maman, Rebecca. Après cet événement, Ésaü jure de le tuer et en voyant la colère de son frère Ésaü, il décide de fuir son pays, il décide de fuir sa maison, sa famille, ses amis. Dans cette situation, il y a le désir de vengeance d'un côté, du côté de Ésaü, et la peur de la rétribution de l'autre, d'où le départ, ou je dirais la fuite de la maison natale. Il avait lui-même choisi cette épreuve parce que, on pourrait dire, il a récolté ce qu'il avait semé. Ici, dans le texte d'aujourd'hui, il est en fuite à cause de son caractère fourbe. Si on regarde un petit peu plus dans le, dans le mécanisme qui permet de commettre les péchés, c'est son caractère fourbe qui l'a permis justement de commettre des péchés, mais aussi pourquoi il a commis tous ces péchés, parce que la chair était aussi faible, il avait envie de devenir l'aîné, il avait envie de recevoir tous ces privilèges de l'aîné. Parfois, nous aussi, nous commettons des péchés parce que la chair est faible. Même si notre pensée aimerait faire du bien, mais on n'y arrive pas parce que nous ne sommes pas des hommes qui vivent dans l'esprit en continu. Dans Galates, il est dit, car, dans Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui, on aimerait faire du bien, mais lorsque nous ne sommes pas envahis complètement par l'Esprit de Dieu, à cause de la faiblesse de la chair, il nous arrive aussi de commettre des péchés, comme Jacob a commis des péchés. Je commence la lecture de verset 10, où il est dit, « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. » Voilà, là, donc, il quitte sa maison, ses frères, ses amis, sa maman, Rebecca, qui l'aimait tant, et il va vers un lieu où il ne connaît pas du tout. Il va chez Laban, son oncle, chez son oncle, qui se situe à Charan, d'après Mappy, que j'ai calculé, la distance fait à peu près 1062 kilomètres. Donc imaginez, je ne sais pas s'il était à pied, peut-être avec son chameau, j'en sais rien. Mais voilà, parcourir 1062 kilomètres tout seul, parfois dans le désert, ça doit être vraiment difficile. La première difficulté était, mais où est-ce que je vais dormir? Hein? Et puis vous savez que dans le désert, il y a beaucoup de bêtes sauvages. Comment survivre dans cette condition? Puis je vous rappelle qu'il n'est pas comme Ésaü, un chasseur né. Il était un casanier. Il aimait être dans la maison de Dieu, dans sa maison. Il aimait discuter avec sa maman. Il aimait papoter avec des gens, dans sa tente. Donc, tout à coup, là, il est tout seul. Il doit partir. Il doit trouver un lieu pour dormir. Il doit trouver un lieu pour manger. Et puis, il a aussi des soucis pour son avenir. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais pouvoir vivre? Et en faisant quel métier aussi? Dans cette phase de voyage, dans cette étape de voyage, il doit avoir aussi plein de sentiments de culpabilité. Parce qu'il a trompé son père, il a trompé son frère, et sentiments de honte. Et à cause de tous ses péchés, maintenant, il est loin de sa chère maman, sa maman chérie, hein, avec qui il avait beaucoup. C'était vraiment, apparemment, un fils à maman. Et puis surtout, je vous avais dit, hein, c'est la première fois qu'il est tout seul. Il se sent seul, isolé, complètement. La solitude lui envahit. Bon, c'est vrai que la solitude, on peut même sentir lorsque nous sommes aussi entourés par des gens. On n'est pas obligé de se sentir la solitude quand on est tout seul. Hein, on peut se sentir seul dans la solitude, même si nous sommes entourés par des gens, parce que, voilà, il n'y a pas forcément une communion avec eux. On peut se sentir seul lorsque aussi nous sommes malades. En ce moment, Daniel doit se sentir très seul. Lucinée me disait, Daniel, on va aller le visiter du matin jusqu'au soir. Voilà, on va le matin, on revient à la maison pour le repas, et puis on retourne à l'après-midi. Et jusqu'à maintenant, il est resté jusqu'à 8 heures du soir, ou même parfois 6 heures du soir. Et puis, lorsqu'il retournait à la maison, Daniel disait, pleurait, parce que voilà, il était tout seul. Parfois, oui, quand on est malade, c'est vrai, on peut se sentir seul. Et puis, parce que c'est moi qui souffre, c'est pas les autres, donc on peut aussi se sentir seul. Quand on meurt, bien sûr, on peut se sentir seul aussi. Pour Jacob, je reviens pour l'histoire de Jacob. Jacob, son plus grand problème au verset 10, c'était où dormir après le coucher de soleil. Il cherche un endroit où dormir et il trouve enfin un endroit où peut-être il n'y avait pas de vent, un endroit idéal. Et il trouve, il choisit une pierre pour son chevet. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il se couche, il trouve une pierre, et enfin, voilà, il doit observer le ciel, les étoiles. Vous savez, quand tout va bien, quand on regarde, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand j'étais en colonie de vacances, quand j'étais ado, voilà, il nous arrivait de bivouaquer à la haute montagne avant de monter dans les Alpes. Et puis, on était avec notre sac de couchage, on regardait le ciel dans le noir, regardant aussi les étoiles filantes, parce que dans la montagne, il n'y a pas de lumière, enfin, il n'y a pas de lanterne. Du coup, on voit très bien le ciel. Et là, c'était vraiment très romantique, très agréable à voir. Mais quand tout va bien, le ciel pourrait être très agréable à voir. Mais vous savez que dans sa situation, ce n'était pas du tout agréable à voir. Il était dans la crainte. La peur l'a envahi complètement. Il était dans l'incertitude. Il avait froid. Il avait faim. Il avait peur. Cette nuit n'était pas du tout, cette belle étoile n'était pas du tout une aide pour lui. Mais il se couche au verset. En tout cas, on le trouve dans l'extrême état de pauvreté en esprit. Vous savez, dans Matthieu 5, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà donc, il est dans l'extrême pauvreté en esprit. Et voilà, à ce moment-là, le miracle se produit. Dans le désespoir total, Dieu se révèle à lui. Au verset 12, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. À cause de la faim, à cause de la fatigue, il a dû s'endormir assez rapidement. Et puis, un peu plus tard, il reçoit un songe. Un songe qui vient de la part de Dieu. Il voit le ciel qui est touché avec la terre par une échelle, relié par une échelle. On voit vraiment, et il remarque vraiment que le ciel peut être accessible à travers cette échelle et que les anges font aller-retour. Voilà donc, il voit un petit espoir à travers cette image de songe. Au verset 13, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et elle dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. » Tout à coup, Dieu lui parle. Il dit, « Je suis l'Éternel. » Il se présente en tant que le Dieu d'Abraham, son grand-père, et le Dieu d'Isaac, son père. « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Il rappelle en fait les promesses qu'il avait déjà faites à Abraham et à Isaac. Il lui rappelle les promesses qu'il avait faites déjà auparavant. Et donc, il rencontre pour la première fois Dieu personnellement. Est-ce qu'il ne connaissait pas Dieu? Mais si. Son grand-père, son père ont dû lui enseigner qui était ce Dieu, Dieu qui est. Et ils ont dû lui enseigner les promesses qu'ils avaient reçues de la part de Dieu. Et depuis son enfance, il a dû faire aussi des sacrifices, des prières à Dieu. Il connaissait vraiment par les témoignages des autres. Mais là, enfin, il le rencontre personnellement. Voilà donc, après le désespoir, dans la solitude, dans l'épreuve, il commence vraiment à retrouver de l'espoir en rencontrant Dieu qui est présent autour de lui, qui est présent avec lui. Que cette année 2021 soit une année où nous rencontrons Dieu personnellement, où nous le voyons, nous expérimentons quelque chose de très fort avec le Seigneur. Au verset 13, il est dit, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. » Ah oui, j'avais lu. Et donc là, il dit, je suis donc le Dieu de tes pères, mais aussi je serai ton Dieu, c'est ça en fait, c'est ça. C'est lui qui l'a choisi, et il dit, je t'aime avec un amour incomparable, incomparable. Il est étonné de savoir que Dieu s'intéresse à lui. C'est un Dieu qui est proche. Au verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Il dit qu'il l'aime, qu'il est avec lui, il veut le bénir. Où qu'il soit, le Seigneur lui promet de le protéger. Et il lui promet même, on a ce matin parlé aussi beaucoup de promesses, il promet encore une fois qu'il le ramènerait sur terre, enfin sur sa maison natale. Et que, voilà, il ne l'abandonnerait pas jusqu'à ce que ses promesses soient accomplies. Je souhaite vraiment que toute cette promesse de Dieu s'accomplissent aussi dans notre vie durant cette année 2021, que nous puissions aussi entendre cette promesse de Dieu qui dit dans Ésaïe 41, « ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Il y a plein de promesses dans la Bible qui dit que voilà, il serait avec nous. Il nous a même promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cette promesse, que nous puissions nous rappeler de cette promesse pour aussi vivre une vie, une année bénie avec le Seigneur. Ce qui est incroyable, c'est encore dans ces promesses de Dieu, il rappelle encore que toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre seraient bénies à travers lui. À travers lui. Au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Je ne le savais pas. Oui, ce n'était pas juste un rêve qu'on rêve tous les jours de notre vie. Mais c'était quelque chose de beaucoup plus spécial. C'était un songe. C'était la vérité qui vient de la part de Dieu. Il a pu recevoir vraiment une vision qui le nourrit, qui le fait avancer. Comme Ézéchiel et Ésaïe qui ont reçu plein de visions, là aussi, Jacob reçoit une vision. Une vision de la part du Seigneur. Il le voit enfin. Il dit, je ne le savais pas que ce lieu était un lieu où l'Éternel réside. Je dirais même, il ne le savait pas que Dieu était tout le temps avec lui. C'est seulement maintenant qu'il ouvre ses yeux. C'est seulement maintenant dans l'extrême pauvreté en esprit, qu'il ouvre son entendement, son cœur, pour expérimenter la présence de Dieu. Vous savez que la compréhension, la connaissance de Dieu ne peut pas nous transformer. Mais une vraie rencontre sincère, authentique, peut faire quelque chose, peut transformer les personnes. Au verset 17, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Face à cette rencontre inattendue, il devient humble. Et surtout, il craint Dieu. Devant ce Dieu qui est tellement pur, tellement grand, tellement saint, il se sent tout petit et pécheur surtout. Et donc, il commence à louer ce Dieu redoutable. Il commence à faire des confessions de foi sur Dieu. Au verset 18-19, il dit « Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. » Voilà donc, Jacob se lève de bon matin. Il prend la pierre comme monument, il le fixe par terre, et puis il verse l'huile. Et il nomme ce lieu Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Beth, la maison, est elle, Dieu. Il loue Dieu. Quand nous rencontrons Dieu, nous ne pouvons pas, nous devenons des adorateurs de Dieu. Nous devenons des gens qui louent pour ses merveilles. Et puis, il fait un vœu. À partir du verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Je vous rappelle que pour l'instant, il n'a rien sur lui. Il n'a rien. Il est en possession de rien du tout. Je vous rappelle qu'il avait vraiment dans la crainte de son avenir, de son présent. Mais tout à coup, avec cette rencontre, il reçoit un espoir. Il a la joie de rencontrer Dieu. Et puis, cela permet de faire un vœu en disant que oui, tu as promis tout cela, et j'espère que cette promesse va se réaliser. À ce moment-là, je te vénérerai comme mon Dieu. Bon, là, à travers ces trois versets, on voit qu'il n'est pas complètement transformé à 100%. Il a encore des choses à façonner. Il dit, si Dieu est avec moi. Il y a encore son caractère charnel qui est là. Il n'est pas complètement transformé. Si tu me donnes tout ce que tu m'avais promis, à ce moment-là, alors, toi, tu seras mon Dieu. Je dirais, s'il était vraiment quelqu'un de mûr, mature, je dirais, Seigneur, tu es mon Dieu. Enfin, il n'y a pas de condition à mettre, puisque Dieu est tellement grand et qu'il réalise ce qu'il a promis, ce qu'il promet. Mais il y a encore un petit doute. C'est pour ça qu'il dit toujours si. Et on voit à travers les événements suivants comment Dieu va encore le façonner, parce qu'il a des choses à encore être transformées, à abandonner. Il a encore ce côté charnel qui est toujours là, où Dieu va essayer en tout cas de le transformer petit à petit. J'aimerais conclure. Cette année 2021, voilà, regardez un peu la situation d'aujourd'hui. On ne peut pas être tous ensemble déjà à cause du Covid de l'année 2020. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va se terminer. Peut-être avec les vaccins, les traitements, on va peut-être retrouver la vie normale. Ou peut-être que cette année sera aussi une année où nous allons recevoir des persécutions. On ne sait jamais. Mais quoi qu'il arrive, et puis d'ailleurs, Jacob a rencontré, même s'il avait rencontré Dieu ici, personnellement, ce n'était pas un chemin où tout était dans la bénédiction de Dieu. Enfin, si, c'était dans la bénédiction, mais sans épreuve, je veux dire. Nous marchons, nous menons une vie d'épreuve. Et malgré tout, le Seigneur est là. Il promet de nous protéger. Il nous promet d'être présent avec nous, à nos côtés, même s'il y a des problèmes. Même s'il y a des difficultés. Même s'il y a des maladies. Même s'il y a des gens qui meurent, des proches qui meurent. Malgré tout, le Seigneur nous accompagnera. On va voir donc petit à petit la transformation de Jacob, ainsi que nous puissions aussi transformer durant cette année 2021, par la grâce de Dieu, par la conduite, par son accompagnement, pour être apte devant le Seigneur. Que nous puissions vraiment avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Que Dieu nous touche notre cœur. C'est vrai que Jacob, auparavant, connaissait Dieu, mais il ne l'avait jamais rencontré personnellement. Que cette année 2021, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu personnellement, de manière aussi palpable, que Dieu vraiment nous fasse grâce pour expérimenter ce genre de choses. Et que, voilà, que nous puissions ainsi confesser que Dieu est grand, redoutable, saint, trois fois saint, tellement pur, et que nous, tellement pécheurs, et qu'il mérite tellement de... Il est digne de notre adoration. Que ce rapport entre le Créateur et la créature se réconcilie. Qui est vraiment un vrai rapport d'intimité et de communion pour que Dieu, enfin pour que nous puissions entendre sa voix comme Jacob a pu entendre. Et que nous ne puissions pas faire confiance à tout ce qui nous entoure, mais plutôt à Dieu seul. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Merci encore pour tout ce que tu as déjà fait avec Jacob. Nous voulons encore te prier pour que tu te manifestes aussi dans notre vie personnelle. Parle-nous. Montre-nous par ta parole, par des songes, par des événements. Parle-nous aussi par des méditations, lecture de ta parole, pour nous diriger au bon port. Peut-être que nous ne nous retrouverons peut-être jamais la vie d'avant, mais malgré tout, Seigneur, nous voulons avancer. Quoi qu'il en soit, oui, nous n'avons rien à craindre si tu es avec nous, Seigneur. Que notre confiance pour toi grandisse et que tu nous fasses vivre des choses merveilleuses durant cette année 2021. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen.